qui fait le pari de l'immigration pour booster la croissance économique. Restez à l'écoute de RFI.
Radio G, Radio G, Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présenté par Pierre Benoît.
Nous sommes au cœur de l'hiver, mais on réchauffe vos cœurs, vous le savez, avec les actualités du territoire angevin, les actualités souvent culturelles, parce que oui, la culture est en effervescence depuis, malgré tout ce qui peut se passer. Nous avons toujours de belles propositions sur le territoire angevin au sens large. On parle bien évidemment du Maine-et-Loire. Et comme on a deux sujets à aborder ce soir, on va pas trop s'étendre, on va tout simplement les accueillir dans quelques instants, puisqu'on va parler de Rêvasson et de la Galerie Sonore qui organise un événement. C'est la Galerie Sonore, c'est à Angers, je ne connais pas. Donc l'occasion avec Anne, sa directrice, d'en découvrir davantage.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Et avant tout ça, Sidonie, qu'on n'a pas encore accueilli, va nous faire un papier sur un sujet d'actualité.
Peut-on encore, en France, donner une fessée à son enfant ? La réponse est désormais claire, c'est non. La Cour de cassation vient de trancher un débat ancien, sensible et très ancré dans la société française. Dans un arrêt rendu la semaine dernière, la plus haute juridiction française affirme qu'il n'existe aucun droit de correction des parents sur leurs enfants. Une décision forte qui met fin à un flou jurisprudentiel hérité du 19e siècle. Les faits remontent à la Moselle. Un père de famille avait été condamné en 2023 à 18 mois de prison avec sursis et au retrait de l'autorité parentale pour des violences répétées sur ses deux fils mineurs. Fessées, gifles, insultes, tirage par le col sur plusieurs années. Mais en 2024, surprise, la cour d'appel de Metz l'avait relaxé, estimant que ces gestes relevaient d'un droit de correction, à condition qu'ils soient proportionnés, non humiliants et sans dommage pour l'enfant. Une décision qui avait provoqué une onde de choc chez les associations de protection de l'enfance. Mercredi 14 janvier 2026, la Cour de cassation a cassé cette décision. Elle rappelle que ce droit de correction n'existe ni dans la loi française, ni dans les textes internationaux, ni dans la jurisprudence contemporaine. Certains arrêts l'évoquaient, certes, mais ils dataient parfois de 1819, autant dire d'une autre époque. Le dossier sera rejugé par la Cour d'appel de Nancy. Pour l'avocat de la famille, Patrice Spinossi, la Cour de cassation remet l'église au milieu du village. Il rappelle que depuis 2019, la loi est explicite. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ni psychologique. C'est ce qu'on appelle communément la loi anti-fessée. Sur ce sujet, la France a longtemps été à la traîne. Aujourd'hui, plus de 60 pays dans le monde interdisent clairement les châtiments corporels envers les enfants. La Suède l'a fait dès 1979, l'Allemagne, l'Espagne ou encore l'Irlande ont suivi. L'idée à suivre est simple, on n'éduque pas par la peur ou la douleur. Mais la violence éducative est encore un phénomène massif, car sur le terrain, la situation reste préoccupante. Selon le baromètre IFOP 2024 pour la Fondation pour l'Enfance, 8 parents sur 10 reconnaissent avoir eu recours à au moins une violence éducative ordinaire dans la semaine précédant l'enquête. Près d'un quart ont donné une fessée et 16% reconnaissent avoir donné une gifle. Et ces chiffres sont en hausse. Pour les spécialistes, ces gestes ne sont pas anodins. Ils s'inscrivent souvent dans une spirale plus large de violence, parfois banalisée. Car oui, on parle beaucoup des coups. Mais la violence psychologique est tout aussi destructive et souvent invisible. Rabaisser un enfant, le menacer, l'humilier, l'ignorer, lui faire peur, l'isoler. Ces comportements peuvent laisser des séquelles durables, telles que des troubles anxieux, la dépression, des difficultés scolaires, une perte d'estime de soi et une reproduction de la violence à l'âge adulte. La défenseure des droits Claire Hédon le rappelle. Aucune forme de violence sur un enfant ne peut être justifiée par un objectif éducatif. Chaque chiffre rappelle l'urgence. En France, un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents, selon l'association Stop Véo. Pour son président Gilles Lazimi, cette décision de la Cour de cassation était indispensable et nous dit « Il fallait un signal clair à l'heure où les violences restent massives dans la sphère familiale. » Mais cette décision ne criminalise pas les parents dépassés, soulignent les assos. Elle vise surtout à changer les normes sociales, à promouvoir une éducation sans violence et à mieux protéger les enfants. Et si vous êtes témoin ou victime de violence sur un enfant, un numéro existe, le 119, le service national de l'enfance en danger, gratuit et accessible 24 heures sur 24.
Merci beaucoup Sidonie pour ce papier sur ce sujet. On va accueillir nos invités dans quelques secondes, mais juste avant, on vous rappelle que la compagnie Le Pont d'Ardoise vous présente Un père et père de Reykounès, et mis en scène par Carole Galisson. Alors les dates de ce gris, c'est passé, c'était ce week-end. En tout cas, il reste pour le mois de février des dates à Avrier et Angers. On vous encourage donc à avoir toutes les informations utiles et nécessaires sur ces dates, sur leur site internet, c'est la compagnie lepontdardoise.fr, tout simplement. Et maintenant, on accueille notre premier sujet de la soirée.
L'invité de Topette sur Radio G.
Et notre premier sujet de la soirée s'appelle Rêvasson. Il est représenté vocalement ce soir par Bertrand et Pierre-Yves. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir.
Et bonsoir Pierre-Yves.
Bonsoir.
Respectivement programmateur et président, directeur du festival, Pierre-Yves. Hein.
Oui, président.
Président, voilà, ou directeur. Président, on va dire président, les bons termes. Rêvasson 2026, on en avait déjà parlé, enfin on avait parlé de l'édition 2025 l'an passé avec toi Bertrand et toi Pierre-Yves aussi, il me semble que tu étais présent en studio. Donc Rêvasson revient, c'est à la Pommeraye, c'est le 31 janvier, avec une belle programmation. On va en parler dans quelques instants évidemment avec toi Bertrand. Il y a Guise notamment de Trio, on pourra se faire un petit extrait audio musical dans quelques minutes. Mais avant de parler de la programmation de cette édition 2026, on peut peut-être redonner un peu de contexte aux personnes qui sont avec nous en studio, mais aussi aux nombreuses personnes qui nous écoutent actuellement dans leur voiture ou peut-être à la maison. Pierre-Yves, sur peut-être l'historique du festival, qu'est-ce que ce festival Rêvasson, on est à la combientième d'édition, on parle à qui, on est sur pourquoi ce territoire-là, pourquoi à la Pommeraye?
On est sur la troisième édition, on va aborder la troisième édition dans quelques jours en effet. C'est une édition qui va se passer en intérieur, la première édition était en extérieur en 2023. On a fait une année blanche en 2024 et puis une première édition indoor donc l'année dernière, le 1er février. Et force de réussite, on continue et on renouvelle cette édition indoor donc à la Pommeraye dans le complexe en effet des Jardins de l'Anjou, commune déléguée la Pommeraye de Mauches-sur-Loire très précisément.
Indoor, outdoor, est-ce que ça est-ce que ça signifie quelque chose de particulier? Est-ce que ça signifie que peut-être qu'au début c'était trop grand l'ambition, il y avait trop d'espace entre guillemets, ou alors c'est une question d'organisation, c'est plus simple quand c'est à l'intérieur, parce que vu que tu en parles, est-ce que ça implique des choses en termes organisationnels?
Oui, complètement. Il y a un impact qu'on soit en intérieur ou en extérieur qui est pas du tout le même. En extérieur, ça se fait souvent au beau jour, donc on est un petit peu noyé dans la multitude de festivals, et c'est très bien qu'il y ait une multitude de festivals, mais on est un parmi tant d'autres, alors qu'en version indoor, on peut faire ça à n'importe quel moment de l'année, dont en hiver, où il se passe culturellement un petit peu moins de choses, à part dans les salles habituelles, on va dire. Et donc, c'était le concept de dire, on va continuer à amener une culture musicale émergente et locale à la Pommeraye, et en décalant la date pour pouvoir faire ça en toute sécurité météorologique, puisque qui pleuve, qui vente, qui neige, l'édition a lieu.
Voilà, et puis au moins on est sûr d'être au chaud et au sec. Alors pour les contours pratiques du coup, ou même les publics, est-ce qu'on parle, on est à la Pommeraye, donc on parle aux personnes qui sont sur le territoire, on essaye de rayonner au-delà par rapport à la proposition, comment on calibre en fait les personnes qu'on essaie de viser, ou alors on se dit bon, on fait cette proposition, on verra bien qui vient ou qui ne vient pas.
On fait une proposition en effet qui est plus ciblée sur un public local en effet, mais l'année dernière on a eu des gens des départements limitrophes qui sont déplacés parce qu'on avait encore une fois une belle affiche. Et là, cette année, on tient encore une fois à avoir et du local et de l'émergent. et un artiste avec un peu plus d'influence d'un point de vue national avec Guise. Mais c'est vrai que entre Jive Me par exemple, qui est en pleine montée de puissance, et puis Madame Oscar, qui est un groupe chalonnais qui a un gros fan club, on va dire, local. On aura également un DJ set d'Angers. Donc tout ça confondu fait que on est sur un public de 15 à 75 ans, plus, hein, si affinité, local et départemental.
Alors, je vais donner la parole à Bertrand, parce que Pierre-Yves, il est en train de te piquer ton taf. Il parle de la programmation.
C'est ce qu'il veut, hein, c'est le président.
Ben oui, c'est lui le président de Rêvasson. Si on s'étend un petit peu plus largement sur la programmation, donc et que je résume un peu ce qu'a dit Pierre-Yves, on fait quelque chose d'hybride entre du local, on tête d'affiche pour attirer, pour confirmer, rendre crédible un petit peu la proposition, et en même temps, on porte aussi des propositions plus locales. Je crois savoir qu'il y avait un DJ l'an dernier, non? Il y avait...
Oui.
Toi-même, c'est ça?
Non.
Non, c'était...
non, moi je faisais l'ouverture. Le DJ faisait la fermeture.
Ah oui, c'est ça. Toi, tu faisais l'ouverture. Non, bon, là, cette année, tu t'es pas mis dans la prog.
Je vais pas me programmer chaque année non plus. Et ça permettait de faire un concert à pas cher et local l'année dernière pour donc, compléter l'affiche.
Donc là, sur cette édition 2026, qu'est-ce que tu as tenté de proposer? Est-ce qu'on a un fil rouge? Est-ce qu'on a des artistes qui sont un petit peu dans la même couleur musicale ou plutôt éclectique, justement?
Le bureau de l'assaut avait une demande pour 2026 qui était de faire une teuf mémorable. Et donc il y avait vraiment cette envie extrême de fête. Et bon, plus on avance en 2026, plus on est en train de se dire qu'on en a besoin. Et donc l'idée derrière, c'était de se dire, bah, y a des concerts de 19h à 2h du matin. Il y a 5 concerts, il faut que la fête ne s'arrête pas. Et donc ça démarre direct avec Madame Oscar, qui a quelque chose qui me plaît énormément, dans le sens où il y a quelque chose de l'ordre de la Mano Negra, quoi. Enfin, il y a vraiment ça. Donc ça démarre direct, qui est suivi par Copycat, qui est un duo, c'est deux cousines qui sont lancées officiellement en 2025, qui est en pleine ascension et qui, je pense, va être le moment subjugant de cette année. Non pas que les autres vont, mais elles tiennent quelque chose qui est assez incroyable, et je pense qu'en 2026 on va beaucoup 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 en entendre parler. Ensuite il y a Guise de Trio qui est notre tête d'affiche. L'idée, comme tu disais, étant de pouvoir rayonner un peu plus largement. Voilà, donc Guise de Trio, enfin d'une certaine manière il fait partie du patrimoine. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours entendu, tu vois, j'ai 38 ans et...
Mais voilà, c'est intéressant.
C'est quelqu'un qui me suit depuis toute ma vie, en fait.
Et même les plus jeunes générations le connaissent, en tout cas, via Trio, parce qu'il y a des revivals, il y a eu un album et tout ça.
Avec McFly et Carlito, avec tous ces gens-là, ouais. Et ensuite, on enchaîne avec Jive Me, un duo de l'Ouest. Alors, je sais jamais, j'arrive jamais à retenir s'ils sont de Saint-Nazaire ou de La Rochelle. Mais de tête, j'y arrive plus, qui fait à la base de l'électro swing, donc ça danse beaucoup beaucoup beaucoup, et qui commence à sortir pas mal de morceaux en français désormais, et ça tabasse, ça y a pas à dire, et ça tabasse assez pour emmener vers Inertie, qui est un collectif de DJ angevin, bah que les auditeurs connaissent peut-être, qui est très très actif à Angers et qui nous plaît beaucoup, et donc cette activité, on a envie de la soutenir. Et donc on leur a demandé s'ils voulaient bien venir, et ils viennent avec grand plaisir.
Donc j'imagine qu'au fur et à mesure de la soirée, il y aura peut-être de moins en moins de jeunes, on va avoir une tranche d'âge plus précise qui va rester jusqu'au bout, non? Ou peut-être on a eu des surprises sur les éditions précédentes?
Je pense que les gens, ils restent pas mal. Après, les parents qui ont des enfants plutôt en bas âge, ils vont peut-être pas rester jusqu'à 2h du matin. Mais en vrai, l'année dernière, c'était plein jusqu'à tard, hein.
Ben oui, parce qu'en fait, le concept, c'est quand même de faire un truc familial aussi. Donc, il n'est pas rare de voir que les enfants, entre guillemets, des grands enfants de 15 ans jusqu'à 25 ans, emmènent les parents, ou les parents emmènent les enfants, ça dépend des fois. Et que bah, finalement, pour faire une belle soirée en famille, tout le monde reste jusqu'au bout.
Et ben voilà, on continue à en parler de Rêvasson, bien évidemment. On parle peut-être des équipes aussi, puis de l'organisation, des à côté éventuels, des infos pratiques aussi. On écoute juste un petit aperçu de Guise et on vient ensemble juste après.
Ouais. que les hommes iront mieux, que le futur papillonne loin de nos aïeux, que si on additionne toutes nos conneries, y'a plus rien qui nous étonne dans ce brouillamini. Rien n'est plus monotone que la déprime, on ne va pas être économe, on va changer de régime, on va construire un royaume égalitaire, on va soigner les symptômes de ce monde autoritaire. Hey, rangez la colère, hey, œuvrez pour la paix, hey, redessinez la terre, yeah, 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 pour tout recommencer. Hey, rangez nos affaires, hey, tout bien nettoyer, yeah, assainir la biosphère, yeah, 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 à nouveau respirer.
On a toutes les cartes en main, toutes les technologies pour changer de chemin, pour bâtir une utopie. Il nous faudra des gens qui font des fous furieux de la vie, faire fusion des passions et fabriquer de la fantaisie. J'aime à croire que la raison va prendre le dessus, que notre nouvelle maison sera bien moins biscornue. Nous allons faire l'addition de toutes nos erreurs, loin des abominations de ces siècles de terreur.
Hey, rangez la colère, hey, œuvrez pour la paix, hey, redessinez la terre.
Guise avec Utopia sur le 101.5 FM de Radio G. Vous êtes à l'écoute de Topette et Guise, si vous ne le connaissez pas, il sera sur la scène de Rêvasson dans la salle. Alors, j'ai plus le nom de la salle, c'est les Jardins de l'Anjou à la Pommeraye. Et justement, Rêvasson, nous sommes avec le président et puis le programmateur Pierre-Yves et Bertrand. Guise, faut repréciser, ça vient de Trio, c'est ça, hein?
Tout à fait.
Voilà, Guise, donc ça va parler un petit peu à toutes les générations, à tout le monde. Et derrière, on aura, enfin avant et derrière, on aura le reste de la programmation. On redonne les noms. Madame Oscar, Copycat, Jive Me plutôt. Et Inertie, le DJ set angevin, 100% angevin. Alors ça, c'est pour la programmation, c'est pour les publics. Organiser un festival, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de mains. Si on parle maintenant de l'équipe, des personnes qui vous accompagnent sur ce projet, leur rendre hommage quand même, vous êtes combien en équipe permanente, Pierre-Yves, dans Rêvasson?
On est dans le bureau et ce qu'on appelle le comité d'administration, donc le cœur pur, on va dire, on est 13. 13 smile, parce que c'est vraiment le but de l'association, c'est de créer un événement en prenant du plaisir. Tout le monde a son rôle, que ce soit la prog avec Bertrand, que ce soit l'environnement avec la Green Team, que ce soit l'exploit pour tout ce qui est bar, parking, etc. L'accueil artiste, la régie, tout le monde est impliqué à 100%. Et avec ces gens-là, il y a d'autres personnes qui, tout au long de l'année aussi, donnent du temps. Et pour que, à la fin, les derniers bénévoles nous rejoignent le jour J.
Organiser un festival comme ça, est-ce que c'est encore facile aujourd'hui? Ou alors on se bat, on sait que la culture elle est un petit peu chahutée à droite à gauche. Est-ce qu'il y a toujours autant d'énergie? Tu parles d'énergie de smile, alors est-ce que ça attire justement? On dit que le sourire attire le sourire. Est-ce qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui viennent rejoindre l'équipe? Est-ce que c'est facile de rentrer en contact avec les partenaires aussi? Comment est accueilli le festival dans cet écosystème culturel aujourd'hui à cet endroit-là précis du monde, c'est-à-dire dans les Pays de la Loire, Bertrand?
Déjà, je tiens à préciser que pour organiser un festival, quelle que soit sa taille, il y a beaucoup de sourires, mais il y a aussi une équipe de fous furieux, parce que tout le monde est bénévole. Ça prend un temps de dingue, et ça prend une place dans la tête assez folle. Donc c'est vraiment une équipe complètement dévouée. Après, comment ça se passe? Avec l'habitude, c'est de moins en moins compliqué organisationnellement à gérer et à créer. Parce qu'il y a des choses qu'on a déjà fait, qu'on reproduit finalement. On améliore l'existant. Maintenant, c'est compliqué économiquement parlant. C'est un secret pour personne. Les festivals, la culture en général, ces 2-3 dernières années, c'est difficile. Et nous, on le voit de manière très concrète. C'est que nos partenaires globalement nous suivent tous. Ils sont très très fidèles. Mais là, ils donnent entre 2 et 4 fois moins en mécénat. Donc on est à la fois très heureux qu'on nous suive et en même temps on se dit waouh, donc faut qu'on soit de plus en plus plein tout le temps. Les festivals en général sont vachement sur le fil et ça va pas en s'arrangeant. Maintenant on compte sur le fait que les gens prennent leur place, achetez vos places, prennent leur place, que ce soit plein et qu'on fasse une fête d'enfer, quoi.
Voilà. Et puis alors si le prix, c'est vrai que 23 euros, ça peut aujourd'hui réfréner, mais comme tu le disais, Bertrand, et Pierre-Yves le confirmera, 23 euros pour tout ça quand même, 5 heures de concert, une soirée mémorable, en tout cas c'est annoncé comme tel.
Oui.
Avec Passe Culture aussi, hein. Attention, enfin faut y penser aussi, on a essayé cette année de mettre en place le Passe Culture et c'est fait. Donc faut y penser, et gratuité pour les moins de 12 ans.
Oui, donc clairement il y a c'est un soutien aussi à la culture, c'est presque un acte militant aujourd'hui d'aller dans un festival, on fait plus que juste profiter d'une soirée de divertissement, on soutient une proposition, donc c'est important de le rappeler, surtout vu le contexte, et ça aussi on l'a bien rappelé. Bertrand, Pierre-Yves, vous restez dans l'émission jusqu'au bout. On redonnera les infos pratiques tout à l'heure en fin d'émission parce qu'on a Anne qui va arriver pour parler de la galerie sonore à Angers, mais avant tout ça, on écoute Adrien qui ne capte décidément rien.
Adrien capte rien. Dans Topette, mais aussi chez lui, au travail, enfin partout.
Salut mes petits diabétiques, comment ça va?
Ah, c'est nous les diabétiques, ouais, ça va.
Non, parce que puisqu'on vient de finir les repas de Noël, de Nouvel An, qu'on s'est englouti un kilo de saumon au mercure et de métastases de foie de canard malade, qu'on est quelque part entre la galette des rois et la chandeleur, aujourd'hui je vais vous parler de troubles du comportement alimentaire. Parce qu'en fait, c'est un sujet qui me touche particulièrement, parce qu'il concerne quelqu'un qui m'est très proche, mon chat, benzodiazépine, Benzo pour les intimes. À la SPA, il l'avait appelé Bouboule, mais avec ma femme, on trouvait ça un peu grossophobe. Et nous, on veut être bienveillants avec Benzo. Benzo, il est boulimique, il est obsédé par la bouffe, il passe ses nuits à s'enfiler des boîtes de thon en regardant des reportages Arte sur la vie des oiseaux. C'est un peu son top chef à lui. Du coup, on essaye de le mettre au régime petit à petit. On remplace les catisfactions par des croquettes, les pizzas par de la pâtée. Plus d'alcool non plus. Benzo, il fait son premier Dry January cette année. Je sais pas si vous avez déjà vu un chat de 6 ans en manque de gin tonic. On dirait Donald Trump en manque de pays à bombarder. On a tout essayé pour Benzo, le vétérinaire, le régime comme j'aime. On l'a même emmené chez le psy. Le psy, il a dit que Benzo, il mangeait ses émotions. C'est beau. Hein. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de beurre dans les émotions de Benzo. Selon le psy, en fait, si Benzo, il est boulimique, c'est parce qu'on lui a pas mis assez de limites quand il était petit, parce qu'on a décidé de lui apporter une éducation positive. Faites pas ça avec votre chat. Il a aucune résistance à la frustration. C'est un peu Donald Trump des chats, Benzo. Donald Trump... Je suis sûr que Donald Trump, il a reçu une éducation positive. On lui a jamais dit non à Donald Trump. Et quand il disait « Maman, je veux me laver les cheveux avec de l'eau de Javel », Madame Trump, elle lui disait « Mais oui, mon petit canard, tu vas avoir des très beaux cheveux ». Et du coup, maintenant, il veut tout de suite. Il prend sans demander la permission. Il rentre par effraction chez les gens. Comme ça, il leur vole leur président de la République et il veut pas leur rendre. Et sa maman, elle lui dit « Verbalise, mon petit canard, c'est très important de verbaliser quand on est dans une tempête émotionnelle ». Alors il verbalise Donald, il dit « Non, c'est mon président de la République, vous en avez pas besoin, c'est moi qui en ai besoin ». Bah mon chat, il est pareil, il verbalise, il a l'air chill comme ça, à dire miaou toute la journée. Mais mon chat, si tu lui donnes un hélicoptère, il te kidnappe Ronald McDonald. Là j'ai un peu peur, parce que je sais pas si vous avez entendu, mais Donald Trump, sa prochaine cible, c'est le Groenland. Il en a besoin, il a dit. Et c'est fou quand même, comme on n'a pas tous les mêmes besoins. Je veux dire, moi j'ai besoin de faire une sieste là. Pierre Benoît, vous avez besoin d'un relooking. Donald Trump, lui, il a besoin de 2 millions de kilomètres carrés de glace remplie de pingouins. Ma théorie, c'est que quand il était petit, Donald Trump, il avait une peluche pingouin. Elle s'appelait Adolphe. Et il aimait Adolphe, mais ça lui suffisait pas, il en voulait plus. Il disait « Je veux des vrais pingouins, je les veux tous, il me les faut tous ». Et maman Trump, elle lui disait « Mais oui, mon gros Donald, quand tu seras grand, tu auras tous les pingouins que tu veux ». C'est l'éducation positive. Et en vrai, je pense que Donald Trump, il est jamais allé au Groenland. En fait, il suffirait qu'il y aille une fois, il verrait qu'il fait trop froid pour faire du golf et il lâcherait l'affaire. En espérant qu'il trouve le Groenland. Non, parce que les Américains, ils sont un peu nuls en géographie. Petite anecdote, je sais pas si vous saviez, mais à l'aéroport de Vienne, en Autriche, il y a un bureau spécial pour accueillir les Américains qui ont confondu Australia, l'Australie, avec Austria, l'Autriche. Ils sont vraiment nuls en géographie, les Américains. Donc j'espère juste que Donald, il va pas confondre le Groenland et le Marineland. Non, parce que si vous voyez des hélicoptères survoler Antibes avec la musique de Sauver Willy, en élutroyant des orques, avec un gros cochon blond qui crie « À moi tous les gros pingouins !» Vous inquiétez pas, c'est juste les Américains qui viennent nous apporter la démocratie. Bon, et si vous voyez un hélicoptère en stationnaire au-dessus d'un Domino's Pizza, c'est mon chat qui est venu réclamer une quatre fromages.
Merci beaucoup, Adrien. On se retrouve dans deux semaines. Si je coupe mon micro, ça va être compliqué. Et on passe à notre deuxième sujet de la soirée.
Topette sur Radio G.
Et nous sommes désormais avec Anne Brisset, directrice de la galerie sonore à Angers. Bonsoir, Anne.
Bonsoir.
Alors, nous allons parler ensemble de la galerie sonore, déjà, pour repréciser et redonner du contexte sur ce qu'est cette galerie sonore, mais aussi d'un événement. Alors, je n'ai pas tout à fait le nom de l'événement, je n'ai pas la date, c'est encore très flou tout ça, mais tu vas pouvoir nous en parler, bien évidemment. Un événement qui s'adresse aux Angevines et aux Angevins, je le suppose. La galerie sonore, j'avoue que j'ai découvert pour préparer cette émission, et je suppose aussi que sa directrice sera la plus à propos pour nous présenter peut-être la galerie sonore à Angers, qui est située dans le
Parc du Pin,
voilà.
Donc derrière la gare, pas très loin de la place Lafayette.
Donc en plein cœur de ville à Angers. Hein.
En plein cœur de ville, dans un écrin de verdure, parce que c'est un parc absolument magnifique avec des arbres centenaires et un petit château au milieu. Donc
alors la galerie,
un lieu absolument magnifique d'un point de vue architectural et contexte.
Alors cette galerie sonore, elle est dans le château? Est-ce que c'est une galerie au sens propre du terme?
Alors, la galerie sonore, c'est pas une galerie quand on l'entend dans le sens galerie de peinture, par exemple, mais une galerie sonore. Donc, alors, on est dans le château, pour répondre à votre première question. C'est un endroit qui abrite à peu près 2000 instruments du monde. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces instruments? Eh ben, on joue dessus. C'est pas un musée. On joue, on reçoit des groupes scolaires toute la journée, en semaine. On propose des ateliers hebdomadaires d'éveil pour les jeunes le mercredi après-midi et le lundi soir. On propose également des ateliers adultes, ados-adultes, sur des thématiques précises, Afrique de l'Ouest, Maghreb et gamelan javanais. Donc on a un instrumentarium extrêmement varié, extrêmement ouvert, qui est vraiment représentatif des cinq continents, mais avec des pièces vraiment majeures, notamment donc le gamelan javanais, qui est un instrument qu'on peut voir assez peu.
Il faut nous donner à voir, parce que là, visuellement, on est sur un instrument à cordes, à percussion.
Alors, c'est un instrument en métal, percussion, uniquement. Alors, après, il peut y avoir un ou deux instruments à cordes qui accompagnent les ensembles. Et puis, il y a une percussion à peau pour diriger l'ensemble. Donc, c'est un instrument qui est collectif, qui se joue toujours collectivement. Donc, vous connaissez le terme de xylophone. Alors, imaginez ce xylophone, mais au lieu d'avoir des lames en bois, on a des lames en métal. Et il y a plusieurs modèles. Il y a des lames plus épaisses, des lames plus fines. Enfin, il y a tout un ensemble. Et il y a d'immenses gongs pour construire cette musique en fait de Java. Donc c'est une pièce assez unique dans l'Ouest. Hein. On en trouve juste une ici. Il y en a la Philharmonie de Paris, il y a deux ou trois ensembles en France, mais vraiment c'est extrêmement rare, donc faut pas hésiter à venir découvrir, et notamment aux Journées du Patrimoine, on fait tout un week-end d'ateliers ouverts et de visites pour faire découvrir nos instruments. Et puis on a également des ateliers un dimanche par mois, on propose des ateliers famille, et puis sur les vacances scolaires, des stages pour les enfants, soit sur la semaine, soit ponctuellement. Des ateliers pour les duos parents-enfants, donc 1-3 ans. On reçoit vraiment un public extrêmement varié, d'étudiants de musicologie, de personnes troisième âge également, pour des ateliers, que ce soit Afrique, que ce soit gamelan. Voilà.
Et quand tu dis « on », Anne, je m'interroge, on parle de qui, vous êtes une association, vous êtes une équipe de Cobien, c'est porté par la ville d'Angers, je m'interroge parce que du coup le cadre c'est la ville d'Angers, hein, de toute façon le Parc du Pin.
Alors le Parc du Pin, effectivement, et le bâtiment appartient à la ville d'Angers. Alors je dis « on » parce qu'on est toute une équipe, hein, on est une association, donc avec son fonctionnement d'association, avec le bureau, le CA, et puis une équipe de salariés. Donc, nous sommes deux à l'administration. Il y a un régisseur et puis des musiciens intervenants, salariés et autres musiciens qui interviennent ponctuellement sur des demandes particulières ou pour renforcer l'équipe, puisque les intervenants salariés sont au nombre de 3, 4, mais avec des temps très différents. Ça va du temps plein au contrat de 3 heures hebdomadaires.
Voilà. Et la Galerie Sonore, vous, on organise des événements aussi tout au long de l'année, évidemment, en plus des ateliers traditionnels, on va dire. L'événement dont on parle ce soir, c'est quand, c'est qui, c'est quoi, c'est pour qui?
Alors, l'événement qu'on organise le 25 janvier, dimanche, donc c'est un événement qui va se dérouler sur la journée entière, qui rentre dans le cadre des Nuits de la Lecture.
Voilà.
Donc c'est la 3e édition. Avec chaque fois une proposition différente, mais qui s'articule quand même un peu toujours sur le même esprit. Et là, je rejoins
Thierry Bertrand.
Voilà, tout à fait. Alors même si nos couleurs musicales sont totalement différentes, il y a vraiment l'esprit d'événement familial intergénérationnel. Et d'ailleurs, on a associé cette année à cet événement un EHPAD qui est juste à côté de la Galerie Sonore et qui va nous rejoindre le dimanche avec une préparation en amont. Voilà. Donc c'est un événement qui s'articule donc, qui commence à 10h le matin avec un accueil petit déjeuner. Et puis qui va se terminer aux alentours du 19h30 avec une programmation concert avec trois formations différentes entre 17h30 et 19h30.
Et on s'adresse à qui alors? On est sur le public habituel de la Galerie Sonore ou on essaie justement de s'ouvrir encore plus sur le quartier peut-être?
Alors c'est effectivement un événement qui se veut de quartier. Mais pas uniquement, évidemment, hein, tout le monde est bienvenu. On est soutenu pour ce projet spécifiquement justement par le quartier, c'est-à-dire que la mairie a différents quartiers et on rentre dans le cadre du projet de quartier. Donc on a un soutien pour mettre en place ce projet et il s'adresse donc aux gens du quartier, mais à toute personne qui souhaite venir, bien évidemment. Il commence par, donc je le disais, un petit déjeuner, une sieste sonore, un petit peu plus peut-être pour les adultes, mais parallèlement, on a un atelier pour les très jeunes enfants, duo par enfant 1-3 ans. Et puis, en même temps, pour pouvoir répondre à tous les âges, on propose un atelier de création sonore, donc avec les instruments de la galerie, sur un conte traditionnel.
Et ben voilà, un beau programme.
Donc ça, c'est en matinée.
Et ensuite,
je déroule le projet.
Alors, ce que je te propose même, c'est de, parce qu'il y a la chronique de ciné de Mathéo et Yoann, et elle prend énormément de temps. J'espère qu'ils vont respecter le timing. On va assurer ce côté-là, et puis ensuite, on redonnera en fin d'émission, si tu veux, le programme de l'après-midi, et surtout l'endroit où découvrir tout ça, car j'imagine qu'il y a un site internet. Je sais que oui, puisque j'ai été chercher deux, trois informations dessus. Tu restes avec nous, Anne, je te mets juste en stand-by 30 secondes. Et puis justement, on va en cinéma avec Mathéo et Yoann.
Topette, avec Pierre Benoît, sur Radio G.
Si je te dis Laura Palmer, Pierre Benoît, est-ce que ça te dit quelque chose?
Oui, bonjour. Non, je sais pas.
Eh ben, j'ai une musique pour toi qui te fera peut-être revivre des souvenirs. En 1990, Angelo Badalamenti, David Lynch, Twin Peaks, la série ayant changé le visage de la télévision à tout jamais est désormais disponible sur Arte depuis le 8 janvier. L'occasion pour nous de revenir sur son histoire, son impact et surtout comment la regarder. Alors plongeons.
Wait a minute, wait a minute. You know, this is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I've had, I can't tell you how many cups of coffee in my life, and this is one of the best.
Lynch n'a jamais refusé de se diriger vers d'autres médiums. Pour le cas du petit écran, il voulait déjà, avant même sa trilogie de Los Angeles, dépeindre à la télévision, sous l'impulsion de la Warner, la vie d'une star issue des studios d'Hollywood, Marilyn Monroe. Si ce projet n'aboutira jamais, c'est en partie parce que Lynch sort traumatisé des travaux de commande après le tournage et le montage chaotique de Dune. C'est cette petite histoire qui a permis une rencontre en 1987, un an après Blue Velvet, celle de Mark Frost, ancien de Hill Street Blues. Le courant passe bien entre deux, il prépare différents projets et on le sent bien avec son dernier film. Le réalisateur américain a envie de s'attaquer aux provinces américaines, de montrer l'horreur dans des petits villages à l'apparence paisible. Si le projet prend initialement plusieurs formes, plusieurs noms, l'idée de mélanger murder mystery et soap opera reste intacte et la ABC l'accepte. La grève des scénaristes de la Writer Guild of America en 88 repousse le projet d'un an, lui qui existe aussi d'ailleurs grâce à cette grève, puisqu'à l'époque les chaînes manquent de scénarios et donc de projets. C'est notamment le cas d'ABC, alors initialement nommé The Northwest Passage, la série comme la ville seront renommées Twin Peaks, les pics jumeaux, synonyme de l'isolement du village symbolisé dans les deux montagnes, mais aussi d'une dualité présente tout au long de l'œuvre. À l'hiver 88, Lynch et Frost écrivent le pilote en seulement 9 jours. Frost, habitué des séries, gère la structure narrative et l'enquête policière quand Lynch lui injecte les ambiances et gère les dialogues de Cooper, l'agent qui a d'ailleurs toujours été écrit comme pour un homme, l'alter ego de Lynch depuis Dune, Kyle MacLachlan. Aucune audition, un choix comme une évidence qui ne l'était pas pour l'acteur qui avait peur d'être enfermé dans le médium sans savoir que ce rôle serait le plus culte de sa carrière, hanté par une phrase: qui a tué Laura Palmer? Alors pour que celle-ci fonctionne, il faut que quelqu'un joue la morte à la perfection. Cheryl Lee, actrice de théâtre de Seattle, le fait tellement bien que Lynch crée le personnage de Maddie, cousine de Laura, rien que pour elle, pour qu'elle survive à l'écran. Fun fact aussi sur un autre personnage, celui de Bob, figure terrifiante née d'une erreur technique. En fait, Frank Silva est à l'origine décorateur de plateau. Le personnage naît à partir du moment où ce dernier se retrouve coincé derrière les barreaux du lit de Laura Palmer. Lynch le trouve terrifiant. Le film... Alors lorsque le reflet de Frank Silva apparaît dans une autre scène, dans le miroir, par accident, c'est décidé, Bob sera la clé du mal. Autre marqueur de l'horreur, la Red Room et la direction d'acteurs dite inversée dans cette dernière. Lynch leur disait d'apprendre leurs répliques à l'envers phonétiquement, il les filmait, puis repassait cette bande à l'envers.
Do you know who I am? I am the arm. And I sound like this.
Twin Peaks ne prendrait évidemment pas cette dimension sans la légende Angelo Badalamenti que Lynch rencontre sur le plateau de Blue Velvet lorsqu'il était coach vocal d'Isabella Rossellini. Leur travail commence véritablement dans Twin Peaks. Et quel travail!
Pour résumer brièvement Twin Peaks, son intrigue se déroule dans les années 90 dans une petite ville fictive du nord-ouest des États-Unis prénommée Twin Peaks, d'où le nom de la série. L'intrigue tourne autour de la découverte du corps de Laura Palmer, une lycéenne apparemment sans histoire, sauf qu'on apprend vite qu'elle est la victime d'un meurtre prémédité. La question qui prédomine alors, qui a bien pu semer le trouble dans ce petit coin paumé et réputé si tranquille? L'enquête est alors confiée à l'agent du FBI Dale Cooper, un personnage aussi brillant qu'excentrique qui mène ses investigations en s'appuyant autant sur la logique que sur ses rêves et son intuition. C'est ça la particularité de la série, c'est le côté mystique que prend l'affaire au-delà d'une simple série policière. Très vite, la série dépasse le simple cadre du polar, derrière les façades tranquilles de la ville se cachent des secrets, des passions inavouables et une violence insoupçonnée. Twin Peaks mêle enquête criminelle, drame psychologique, humour étrange et éléments surnaturels. Une œuvre résolument lynchienne, dont l'esthétique se confronte au code du soap opéra. La série explore la dualité entre le bien et le mal, la part d'ombre des individus et l'influence de forces mystérieuses qui semblent dépasser la compréhension humaine. Au-delà de son intrigue policière, la série cherche avant tout à montrer ce qui se cache sous la surface des apparences. La petite ville semble paisible, presque figée dans une Amérique idéale, mais chaque personnage dissimule une faille, un secret ou une part de noirceur. La série interroge l'idée que le mal ne vient pas seulement de l'extérieur, mais qu'il peut naître au cœur même des communautés les plus ordinaires. Twin Peaks aborde des thèmes forts, la violence, le traumatisme, l'abus, la sexualité, la drogue, mais aussi la culpabilité, le deuil et la perte de l'innocence. La perte de l'innocence, parlons-en d'ailleurs, ce thème si cher à David Lynch, déjà présent dans Blue Velvet, est incarné par le personnage de Laura Palmer, personnage central qui, à travers elle, la série montre comment une jeune lycéenne peut être enfermée dans une image idéalisée, entièrement construite par le regard des autres, qui évoque son souvenir avec nostalgie. Cette vision contrastée se heurte pourtant à la réalité d'une vie secrète,
profondément marquée par la souffrance. Laura devient ainsi le symbole d'une jeunesse sacrifiée, incomprise. Véritable icône de la pop culture, son symbole ainsi que son visage a été repris à travers le monde entier et remodelé à leur culture. Même qu'à Tokyo, en 1992, des funérailles fictives ont été organisées dans le pays, rassemblant des centaines de fans de la série. Pour aller plus loin, dans une lecture résolument plus méta, David Lynch a insufflé dans l'écriture de Laura Palmer une dimension profondément féminisme. Elle échappe aux archétypes féminins dominants de l'époque, elle a ses propres désirs, ses contradictions, ses propres vices et ne se confronte pas à l'image morale que les autres projettent sur elle. Twin Peaks montre ainsi comment les récits masculins tentent de la figer en fille parfaite ou en victime, alors que son identité déborde de ses cadres. Laura devient une figure de résistance narrative, refusant d'être réduite à un fantasme ou un symbole. Parallèlement, les autres personnages occupent chacun un rôle souvent construit autour d'archétypes marqués, aussi entre une dimension presque cartoon et des figures particulièrement hautes en couleur, qu'on vous laissera le plaisir de découvrir bien sûr plus en profondeur de votre côté.
Listen to me. While I will admit to a certain cynicism, the fact is that I'm a naysayer and hatchet man in the fight against violence. I pride myself in taking a punch and I'll gladly take another because I choose to live my life in the company of Gandhi and King. My concerns are global. I reject absolutely revenge, aggression, and retaliation. The foundation of such a method is love. I love you, Sheriff Truman.
Enfin, je l'ai déjà abordé, mais la touche d'originalité de la série réside dans l'introduction des forces mystérieuses et surnaturelles, notamment à travers la loge noire, la Red Room comme on dit, qui symbolise les pulsions inconscientes, les peurs et les désirs enfouis. Ces éléments ne cherchent pas toujours à être expliqués rationnellement, Twin Peaks invite plutôt le spectateur à ressentir, à comprendre, à accepter l'étrangeté comme une clé de lecture du monde, à enfiler le rôle de détective et être actif au lieu d'être passif devant ce programme. Tout cela explique encore aujourd'hui, de nombreuses théories continuent d'émerger pour expliquer le sens du scénario, porté par une communauté particulièrement soudée et active depuis plus de 30 ans.
Twin Peaks est une révolution. Lors de la sortie du pilote le 8 avril 1990, c'est un foyer américain sur trois qui regarde la série. 34,6 millions de téléspectateurs, soit 33% des parts d'audience. La série a la particularité de transformer les codes narratifs d'époque. Il était plutôt de mise de voir des épisodes se suffire à eux-mêmes pour permettre aux gens de revenir sur la série lorsqu'ils ont loupé des épisodes. Dans Twin Peaks, c'est impossible. La série emprunte les codes techniques du cinéma, finit le 36 mm. Lynch tourne en 35 comme sur le grand écran, mais c'est surtout dans l'utilisation de la caméra qu'il aura le plus d'impact. Twin Peaks est filmé comme un film, avec notamment des plans séquences, des scènes moins académiques, en somme, et elle est là, la révolution. Si Netflix a balayé ses codes, aujourd'hui d'autres plateformes comme Apple TV les empruntent toujours, et c'est ça qu'a apporté Twin Peaks à la télévision. C'est littéralement inquantifiable. Si d'autres réalisateurs comme Bergman ou Hitchcock étaient déjà passés sur le petit écran, personne n'avait pris à contre-pied de cette manière le médium.
Et pour éviter tous les doutes et pour les possibles égarés, il faut suivre l'ordre de visionnage dans cet ordre. Alors pour commencer, il faut commencer par les saisons 1 et 2, jusque-là c'est logique. Ensuite, vous pouvez visionner le film Firewalk With Me, qui fait office de préquel, où l'intrigue se déroule pendant les 7 derniers jours de Laura, avant sa mort. Et surtout, ne le regardez pas en premier pour garder les effets de surprise de la série. Ensuite, en 2015, Lynch sort Twin Peaks The Missing Pieces, qui est un condensé des scènes coupées du premier film. Vous pouvez le regarder, même si ça n'est pas indispensable, c'est surtout réservé aux fans de la série pour rechercher le moindre détail. Et enfin, finissez par la saison 3 de Twin Peaks, The Return. C'est la dernière œuvre de Lynch à ce jour, sortie en 2017, qui reprend la série là où elle s'était arrêtée à la saison 2, mais 25 ans plus tard, aussi bien dans la série que dans notre réalité. En bref, suivez l'ordre de sortie chronologique des œuvres.
Les trois saisons de Twin Peaks sont disponibles sur Arte pendant un an jusqu'en décembre. De quoi s'immiscer dans le quotidien dérangeant de ses habitants et de découvrir la série la plus importante de tous les temps.
Merci beaucoup Mathéo et Johan qui sont en train de vivre leur meilleur moment de l'année puisque on est en plein cœur du festival Premier Plan. Ça se passe bien pour vous, ouais?
Eh ben super, top. On a déjà vu pas mal de films.
Donc on a très très hâte.
Vous nous ferez un compte rendu certainement lundi prochain, le 26 janvier, puisque nous sommes en direct d'ici avec Radio Campus Angers sur les deux fréquences en même temps pour faire le bilan de cette édition de Premier Plan. Il nous reste 3 minutes pour conclure avec nos invités de la soirée. Anne qui lève la main. On avait encore des choses à dire, surtout des infos pratiques à retrouver concernant la galerie sonore et cet événement dans le cadre des Nuits de la Lecture le 25 janvier.
Alors, oui, des infos pratiques, mais Avant tout, j'aimerais quand même parler très très vite du programme de l'après-midi et des trois formations qui vont jouer en concert entre 17h30 et 19h30. Mais il ne faut pas louper en tout début d'après-midi, de 14h à 15h, un super jeu de pistes qui a été préparé pour permettre justement à tous les participants de découvrir les instruments et les salles, les différentes salles de la galerie sonore.
Instruments du monde,
on précise. Instruments du monde, absolument.
Que des personnes soient venues en cours de route.
Tout à fait. Et donc à 17h30, les concerts commencent avec Anouk Janton, qui est violoniste et ethnomusicologue, pour un solo de violon, donc plutôt musique contemporaine, mais inspirée aussi de musique de tradition.
Pas du monde, on dit plus du monde,
alors,
je crois.
Alors, non, ouais, mais parce qu'en fait, la galerie sonore s'ouvre aussi à d'autres esthétiques musicales. C'est-à-dire que notre médium principal, ce sont les instruments du monde, mais grâce à travers les événements qu'on met en place et en partenariat notamment avec Up Up and Away, on ouvre sur d'autres esthétiques. Donc ensuite, on aura un trio. Pour Crystal Bachet, donc pour le coup, qui est un instrument contemporain qui a été inventé dans les années 70, qui est un instrument qui se joue avec les doigts mouillés sur du verre, donc joué par Catherine Brisset, accompagné au violoncelle par Anaïs Moreau et Charles Dubois aux percussions, que les Angevins connaissent bien, je pense. Donc ça, c'est un projet qui s'appelle Revue de presse, qui est inspiré par des articles de journaux et qui se métamorphose en univers sonore. Et puis un dernier collectif, qui est un collectif d'artistes nés du TALM d'Angers, donc l'école d'art et de design, et qui s'appelle KIN, et qui propose un projet un peu déjanté.
Et ben voilà, de quoi nous donner décidément envie, même si on n'est pas du quartier, ça on l'a bien noté. On
absolument.
Est dans le Parc du Pin, on est du côté sud-gare, on va dire, à peu près à Angers. On peut, même si on n'est pas du quartier, donc profiter de cet événement et puis même de la galerie sonore, découvrir tout ça sur votre site internet.
Absolument, tout à fait. Et c'est accessible en tram, en bus, donc très facile.
Merci Anne Brisset, la directrice de la galerie sonore, de nous avoir présenté la galerie sonore et puis aussi parler de cet événement. On avait un autre événement en début d'émission, Pierre-Yves et Bertrand sont toujours là. Bertrand, Pierre-Yves, président de Rêvasson, 31 janvier, qu'est-ce qu'il faut rajouter de plus? 23 euros, c'est gratuit pour les moins de 12 ans, il y a le Pass Culture, et là aussi, il n'y a pas un trio, mais il y a Guise de Trio qui est en tête d'affiche, et puis on a aussi du local. En fait, j'ai fait votre taf à votre place.
Rêvasson.fr.
Rêvasson.fr, c'est ça. Bertrand, tu voudrais rajouter quelque chose peut-être sur la prog?
Non, tout est bon, il y a 5 heures de concert, et ça va être une fête. Très belle fête.
Et Anne a quelque chose à rajouter.
Oui, que c'est en fait un événement à prix libre, donc on peut
le
venir.
Le mien.
Oui, ne mélangeons pas. À prix libre, donc on aime, on participe si on le souhaite pour soutenir l'événement. Et sinon, si on n'est pas très content, mais ça, je pense que ça ne va pas arriver, eh bien on repart, on prend son petit déjeuner, le café.
Le message
et
voilà. Est bien
et
passé,
le goûter à 16h.
Merci beaucoup Anne, et puis merci Bertrand, merci Pierre-Yves. Pour Rêvasson, on se dit rendez-vous pour 2027, prochaine édition. On y pense déjà ou on attend la grosse teuf de 2026?
Les deux.
Les deux, ok.
Et on est très concentré sur la teuf de 2026 là, et on espère un 2027 évidemment, parce que tant qu'on peut continuer, on continuera.
Et ben on espère qu'on vous réentendra au micro de Topette pour nous parler de Rêvasson. On a deux places à vous offrir, on fait ça sur les réseaux sociaux. Merci pour ça et merci pour les personnes qui vont pouvoir en profiter. Merci Mathéo, merci Johan, merci Morgane. Morgane était là, vous le saviez pas, mais il était là pendant toute l'émission. Et merci Sidonie, on se retrouve demain à partir de 18h10. Prenez soin de vous, à demain. Et Topette. Ah, je pensais que quelqu'un dit à Topette.
Topette. Topette.
Regard perdu dedans, l'élan coupé à ras, la suite figée dans, ça viendra, peut-être pourvu que prières et vœux. Je vendrai ma maison à celui qui n'y coupera pas les fleurs, Je vendrai ma maison à celui-là seulement. Je vendrai ma maison à celui qui n'y coupera pas les fleurs. Et comme il ne vient pas, j'attends. La tante me l'a dit, elle aime ma gueule, mon herbe, ma compagnie. Et si je la déteste, elle s'en fout, elle reste. Elle dit souvent qu'elle m'apprend à mettre l'ici et l'ailleurs dans.